Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Cette semaine, nous aurons un témoignage bouleversant, celui d'une famille touchée par le très grave accident d'un enfant d'une fratrie de 6. C'est la maman du jeune Stanislas, âgée de 11 ans à l'époque, victime d'un accident, qui a écrit le récit de cet événement dans un livre intitulé « Maman, j'ai vu Jésus », édité chez Via Romana. Nous revenons donc en ce jour avec Laurence Trochu. Bonjour, chère Laurence.
Bonjour, France Andrieux.
Alors, en quelques mots pour nos auditeurs, vous êtes diplômée de philosophie de l'Université Paris-Sorbonne, Paris 4. Y avez effectué l'essentiel de votre cursus supérieur. Déjà mère de famille, vous avez courageusement poursuivi avec un master en philosophie politique, dont le mémoire de recherche portait sur la morale face à l'individualisme démocratique, dont on pourrait peut-être parler une fois, portant sur la pensée d'Alexis de Tocqueville, un pas vers la politique qui vous voit maintenant député européen. Alors, avant même de commencer votre livre, j'ai senti que nous allions vivre votre carême 2017. Vous savez que j'ai frissonné, en fait, en lisant l'invitation à prier pour vous que vous relatez dans votre livre, parce que nos enfants scouts à l'époque, à Rambouillet, on avait entendu parler de cette histoire. Je ne savais pas que c'était vous, et je ne connaissais pas la fin de l'histoire. Donc, j'en ai été d'autant plus touchée. Donc, voilà, on était, sans le savoir, déjà unis à ce moment-là, vraiment auprès de vous. Je voulais aussi préciser que dans la préface, le chanoine Boulle, qui est notamment, je le précise pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vicaire général de Versailles, vicaire épiscopal, qui fut donc votre curé au moment de l'accident de votre fils Stanislas, rappelle qu'avec cet accident, nous allons toucher à ce que nous confessons chaque dimanche, c'est-à-dire cette foi dans l'au-delà où Dieu nous attend si nous aspirons à le suivre, et cet au-delà qui est la vie éternelle. Alors, dans l'avant-propos, c'est très touchant de voir votre mari aussi s'investir dans ce livre. Ce qu'il dit sur sa voix m'a beaucoup touchée, sa foi m'a beaucoup touchée. Il rappelle qu'il nous est demandé, comme dans le deuxième mystère glorieux, le désir d'aller au ciel. Et cette espérance, dont c'est la vraie définition, hein, qui est, comme vous le savez, particulièrement utilisée improprement en politique, voilà, cette espérance rejaillit, en fait, tout au long du livre. Nous le verrons plus précisément un petit peu plus tard. Alors, entrons à présent dans le récit. Nous sommes en 2017, année pour vous extraordinairement dense, puisque sur le plan politique, vous êtes à ce moment-là porte-parole de François Fillon, n'est-ce pas ?
Exactement, c'était en pleine période présidentielle.
Voilà, c'est ça. Et puis, année chargée pour vous, puisque vous défendiez la thématique de la famille et des valeurs. On connaît les remous. Voilà, qui s'en sont suivis avec tout ça. Alors, dites-nous, que s'est-il passé ce 27 février 2017 ?
C'est vrai que c'était une soirée a priori comme les autres, dont j'étais plutôt fière d'ailleurs, parce que je pense que toutes les mamans savent bien que entre 18h et 20h dans une famille, voilà, le travail est à son comble. Et ce soir-là, j'étais assez fière, puisque de fait, à 20h, tout était fait. Le dîner était bouclé, j'étais en train de débarrasser la table. Et à ce moment-là, j'ai entendu un bruit qui ne ressemble à aucun autre. À un moment, j'ai cru peut-être que c'était une collision entre deux voitures, que c'était peut-être un animal percuté par une voiture. Et puis, je me disais non, en fait, ça ne ressemble à rien de cela. Et un de mes enfants est entré dans la maison en disant « c'est Stan, une voiture ». Et là, j'ai compris l'origine de ce bruit qui ne ressemblait à aucun autre. Et puis après, très vite, voilà, tout s'enchaîne et il y a ce paradoxe du temps qui à la fois est séquencé par toutes ces étapes dramatiques et puis ce temps qui s'étire parce que entre le moment où les secours sont arrivés et le moment où nous avons eu la première information sur l'état réel de notre fils, il s'est écoulé plusieurs heures au cours desquelles nous avons compris effectivement le verdict et la gravité du diagnostic annoncé, à savoir Glasgow 3, mortalité de 90%. Donc Glasgow 3, c'est quoi ? C'est l'échelle de la conscience. Donc Glasgow 3, c'était tout près de la mort cérébrale. Et donc, les secours emmènent notre fils à l'hôpital Necker. Voilà, et le diagnostic sera confirmé. Et nous allons commencer effectivement ce carême avec une véritable montée au calvaire, puisque pendant des semaines et des semaines, eh bien, notre fils était entre la vie et la mort. Et donc, cette veille de Mardi Gras, voilà, était une entrée en matière particulièrement douloureuse.
Alors, malgré votre foi qu'on sent très profonde dans votre famille tout au long de votre livre, il y a cette question que vous vous posez et que tous parents se posent dans ce genre de situation, pourquoi nous? Alors, est-ce que la suite des événements vous a donné la réponse?
Alors, il y a eu effectivement pendant toutes ces semaines dans lesquelles il était dans un coma très profond, ce que j'appelle une forme de vie mécanique. On se lève le matin, on fait de manière machinale toutes les petites tâches de bien ordinaires de la vie. Et puis il y a de temps en temps, en fait, des fulgurances, des inspirations spirituelles, et l'une d'elles qui, lorsque je faisais mon lit, me tombe dessus. C'est vraiment l'expérience que j'ai faite pour la gloire de Dieu et le salut du monde. La conviction que ce qui était en train de nous arriver ne servait pas à rien. Et cette petite phrase s'est imposée à moi et ne m'a pas quittée. Je n'en comprenais pas forcément le sens, si ce n'est que, au vu de l'état terrible qu'on nous disait, évidemment, le rétablissement de notre fils était impossible. C'est-à-dire que le pronostic vital était engagé, le tronc cérébral était atteint, l'électroencéphalogramme était quasiment plat. Et puis il y avait ce Glasgow 3, voilà, qui était la mesure de la gravité de la situation. Et je me suis dit, ben, si finalement il s'en sort, ça ne peut être que par une intervention miraculeuse. Les médecins avaient dit, vous savez, il va vivre pendant un an, peut-être un an et demi, parce qu'il est jeune, dans un état qui oscillera entre le coma et peut-être l'état végétatif, c'est-à-dire la capacité qu'il aurait à respirer sans l'assistance des machines. Mais ça n'ira pas au-delà, il ne retrouvera jamais la conscience. Et donc, pour la gloire de Dieu, c'est imposé dans la mesure où, à mesure que son rétablissement, malgré tout, a eu lieu, déjouant ainsi tous les pronostics, eh bien, c'était des petits miracles qui, bout à bout, ont permis, d'aboutir à un rétablissement qui, aujourd'hui, n'est pas complet, n'est pas total, parce que la vie de notre fils est marquée par le handicap, mais en tout cas, bien au-delà de ce qu'il nous était permis d'espérer.
Alors, vous faites des choses étonnantes, mettre de la musique dans sa chambre, vous lui mettez des arômes sous le nez. Alors là, je pense aux parents qui seraient peut-être actuellement confrontés à cela. C'est le corps médical qui vous a proposé de faire cela ou vous l'avez fait instinctivement?
Je l'ai fait instinctivement, c'est-à-dire que, vous savez, cet état du coma, on ne sait rien de ce qui s'y passe. Bien sûr, il y a des tests, des mesures, et à chaque fois, les médecins concluaient qu'il était vraiment très, très loin. Et un jour, moi, je me suis dit, je vais faire comme si, non pas parce que j'étais dans le déni, mais je vais faire comme si ces moments où il est encore là, sans être vraiment là, étaient des moments remplis de vie. Et la vie passe par les sens, passe par nos cinq sens. Et Stanislas, qui tout petit déjà avait un côté artiste et donc une sensibilité très prononcée, je me suis dit, bah, je vais animer ces sens, je vais mettre du souffle là où il semble ne plus y en avoir. Et à la maison, on jouait beaucoup à la reconnaissance des odeurs par le nez du vin, cette grande encyclopédie bibliothèque avec les petites fioles. Et je savais quelles étaient les odeurs auxquelles il était sensible. Je lui mettais de la musique, je lui mettais les musiques qu'il appréciait. On lui laissait aussi, par exemple, nos foulards empreints de nos parfums. Je le massais beaucoup, voilà, parce que en fait, le corps s'abîme très vite. Hein. Au bout de 2 semaines déjà, la peau se dessèche, les premiers escarres peuvent apparaître.
Ce qui n'a pas été le cas pour lui,
Ce qui
dites-vous
n'a
dans
pas
votre
été le
livre.
cas.
Oui, j'ai vu ça.
Exactement, ça n'a pas été le cas, mais pour le coup, ça, c'était des conseils médicaux qui nous étaient donnés parce que il y a évidemment tout le savoir et tout l'art médical, et puis il y a aussi tout le temps que nous passons au chevet de notre fils et avec lequel il faut établir un nouveau contact, en fait, puisque la parole n'est plus possible, le regard n'est plus possible. Je me dis. Le sens le plus fondamental, nous dit Aristote, c'est le toucher. Donc, en fait, par le toucher, même si je savais, même si j'ai su après qu'en fait, il était paralysé et que peut-être il ne sentait pas grand-chose, mais par le toucher, eh bien, il y avait ce contact, voilà, par lequel passait aussi tous les sentiments que nous avions pour lui. Donc, on lui massait les bras, on lui massait les jambes partout au point d'appui pour éviter effectivement la formation des escarres.
J'imagine que ses frères et sœurs aussi venaient au contact avec lui.
Alors de manière, comment dire,
Plus
progressive,
pudique. Ah, oui.
parce que de fait, quand une personne est en réanimation, elle est comme harnachée, on va
Oui.
dire, enturbanée, entuyautée, enfin voilà, et on n'arrive pas sans préparation dans une chambre de réanimation. Les plus grands sont venus d'abord. J'ai assez vite jugé que ça n'était pas une bonne idée parce que même
Alors,
si la
c'est ce que
psychologue
vous
de
dites, oui,
l'hôpital.
mais vous n'expliquez, on comprend, enfin, dans le livre, vous n'avez pas trop développé ça. Les enfants, c'est douloureux pour eux. Vous pensez qu'il vaut
Oui,
mieux pas.
c'est douloureux. En fait, ce qu'on découvre aussi dans un accident comme celui-là, c'est que chaque membre de la famille le vit avec ce qu'il est et avec son âge, bien évidemment, mais aussi avec sa sensibilité, avec le lien propre qu'il avait à son frère, et puis avec toute l'angoisse, finalement, malgré tout, qui était plus forte que tout. Et oui, il y a quelque chose de traumatisant dans le fait de découvrir son enfant, son frère, dans cet état. Et avec évidemment la grande question de que va-t-il se passer? Parce que
Oui,
ça,
bien
pour le coup,
sûr.
nous n'avions aucun moyen de le deviner.
Nous allons faire une petite pause et nous retrouvons dans quelques secondes.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Quelque chose vous fait basculer dans l'offrande de cette souffrance, comme si cela lui donnait du sens, on en parlait tout à l'heure. Vous faites alors vôtre cette phrase de Padre Pio, la souffrance est un don de Dieu, heureuse l'âme qui sait en tirer profit, la souffrance offerte à Dieu est la plus puissante des prières. Vous l'avez vécu.
Je l'ai vécu de fait parce que vous avez mentionné le fait que vous étiez vous-même dans cette grande boucle de prières sur un fil WhatsApp dont j'ai su que il était transféré, puis retransféré, parfois converti en email pour les personnes qui n'avaient pas les boucles WhatsApp. Et en fait, ce mouvement de prière nous a entièrement dépassé. Il s'est répandu dans le monde entier. Et un jour, j'ai découvert que l'archevêque de Bagdad, Monseigneur Sleiman, célébrait la messe pour notre enfant avec la communauté irakienne. Et à l'époque, Bagdad était encore sous le joug de l'État islamique. On savait, on souffrait avec nos frères chrétiens d'Orient de toutes les barbaries qu'ils subissaient. Et j'ai été subjuguée de voir qu'à l'autre bout du monde, des chrétiens qui vivaient dans une misère et dans l'atrocité avaient encore la force de prier pour un enfant dont je dis que finalement il avait quand même la chance d'être soigné dans un des meilleurs hôpitaux du monde. Et donc, ben, voilà, je me dis, j'ai en face de moi la générosité à l'état pur. Et elle doit appeler la mienne en retour. Et même si notre prière pour les chrétiens d'Orient était en famille, enracinée depuis bien longtemps, vous voyez, dans mon cœur de mère qui souffrait, évidemment que dans mes prières, je donnais la priorité à mon enfant, comme si finalement le bon Dieu n'était pas au-delà des limites de temps et d'espace. Et là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de concurrence dans le cœur de Dieu entre les intentions des uns et les intentions des autres. Et je me suis dit maintenant, quand je prie pour mon fils, je prie en même temps pour ces chrétiens d'Orient. Et puis, bah, pour toutes les intentions qui peuvent nous avoir été confiées aussi. Et le bon Dieu s'en débrouillera. Et finalement, cette communion fraternelle,
Oui.
cette appartenance au corps du Christ dont chacun de nous est un membre, eh bien, nous l'avons expérimenté spirituellement et quelque part charnellement.
Alors vient le jour où un premier contact s'établit. Alors il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, sa respiration est parole. Je trouvais cette phrase vraiment très belle. Alors ce premier contact s'établit. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est amusant parce que vous relatez cette anecdote où, alors est-ce qu'il était facétieux avant, mais pour ne pas montrer que le contact s'établit avec vous, est-ce que vous pouvez en parler, s'il vous
Oui,
plaît?
c'est vrai, sa respiration est parole parce que, vous savez, un soir, j'ai quitté l'hôpital avec ce sixième sens, je pense, qu'on a dans ces moments-là. Je pressentais que les médecins s'interrogeaient sur l'arrêt des soins. Et donc, j'ai dit à Stanislas, si tu sais que tu dois mourir, eh bien, vas-y, cours vers notre Seigneur. Ne nous laisse pas dans une situation où nous aurions à prendre une décision ou tout le moins à valider la décision d'arrêt des soins, ce qui, évidemment, pour des parents, est absolument atroce.
Terrible.
Et le lendemain matin, quand je suis arrivée, j'ai été accueillie par le réanimateur, ce qui n'arrivait jamais, hein, habituellement. Et je me suis dit, bon, voilà, à coup sûr, elle est là pour m'annoncer qu'il est mort dans la nuit. Et en fait, non, c'était tout l'inverse. C'était pour nous prévenir qu'il s'était extubé, probablement en toussant. Et c'est pour ça que j'ai cette phrase, sa respiration est parole, parce que c'était la manière dont il répondait à la sollicitation que je lui avais exprimée la veille. Voilà, donne-nous un signe que ta vie est possible. Donc, il y a eu cette première étape qui a d'ailleurs suscité pas mal d'interrogations parce que l'autonomie respiratoire n'a pas été définitive, il a fallu le réintuber. Et à ce moment-là, j'ai un peu titillé le médecin en disant finalement, est-ce que vous, docteur, vous n'êtes pas là en ce moment dans l'acharnement thérapeutique,
Ah oui.
alors même que vous nous avez dit qu'il ne vivrait qu'un an ou 18 mois. Et puis quelques semaines après, il y a eu le jour de la Saint-Joseph. Nous avons une grande dévotion à Saint-Joseph et Saint-Joseph est d'ailleurs le deuxième prénom de Stanislas. Il y a eu un échange, en fait, par des claquements de doigts. Parce que vous savez, les médecins, souvent, quand ils cherchent à voir s'il y a une réactivité au niveau des yeux, claquent des doigts devant les yeux du patient. Et on avait pris l'habitude de le faire nous aussi. Et là, en l'occurrence, mon mari effectue ce geste. Et Stanislas répond par un claquement de doigs. Et quand mon mari
Incroyable.
claquait deux fois, eh bien, il répondait par deux claquements, etc., etc. Et donc, il y a cette communication minimale qui s'établit. Vous l'avez dit de manière assez facétieuse, parce que évidemment, quand on sort dans le couloir pour annoncer aux médecins et aux infirmières qu'il y a eu un changement, ils accourent et se disposent autour du lit pour susciter à nouveau ce claquement de doigts. Et Stanislas n'y répond pas. Il a fallu qu'un interne se cache. Échappant finalement à ce que Stanislas pouvait pressentir de sa présence pour qu'il se rende compte et qu'il constate que nous, parents, n'étions pas devenus illuminés ou dérangés au point d'inventer quelque chose qui n'existerait pas. Et donc il y a eu cette première étape. Et c'est pour ça que je me suis dit à ce moment-là, finalement, il est revenu. Il est revenu. Il était bloqué sur sa drôle de planète, mon petit prince, mais là, il est revenu.
Vous en avez reparlé plus tard?
Avec les médecins?
Non, avec Stanislas, de ce claquement
Avec
de doigts.
Stanislas, bien sûr. Alors lui, il n'en a aucun souvenir,
Oui.
évidemment. Et d'ailleurs, c'est assez touchant parce que c'est une chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé quand j'ai écrit ce livre et quand il l'a lu. C'est à la manière dont lui, il allait finalement réagir à ce que j'écrivais. Parce que, évidemment, j'ai écrit l'histoire vécue de notre côté,
Oui.
pour à la fin la raconter vécue de son côté. Mais la manière dont nous avions vécu toutes ces semaines et tous ces mois dans l'angoisse, lui, bah, évidemment, n'en avait pas conscience, précisément parce qu'il était dans le coma. Donc, il a découvert finalement que Il y avait comme un écho entre ce que nous avions vécu et puis ce que lui a expérimenté.
Alors, grande joie, Stanislas va petit à petit réagir encore plus, puis partir en soins intensifs. Vous évoquez cet apprivoisement pour lui, comme pour vous tous, hein, de ce nouveau corps qui doit maintenant faire fonctionner. J'imagine que ça a dû être très long et très difficile.
Très long, et c'est encore très long, au sens où, pour moi qui suis de nature très impatiente, évidemment, cet enfant, j'ai le sentiment de l'avoir mis deux fois au monde, parce que quand il est sorti du coma, il était paralysé, il était aveugle, il était mutique, donc il avait moins d'autonomie qu'un nourrisson, en fait. Il se réveillait dans le corps d'un enfant de 12 ans, puisqu'il avait fêté son anniversaire sans en avoir conscience, et nous devions finalement tout lui réapprendre. Donc il a passé 2 ans et demi à l'hôpital, hôpital de jour à la fin, heureusement. Et au cours de ces 2 années et demie d'hôpital, il a réappris à marcher, à manger, à aller aux toilettes, à se laver les dents, à se couper les ongles, à faire ses lacets. Et c'est vrai que dans nos vies qui vont très vite, on est tenté de faire à sa place, parce que alors que non, il faut lui laisser le temps de s'apprivoiser lui-même, et puis nous, il faut apprivoiser effectivement cet enfant qui n'est plus tout à fait le même, alors même que son existence finalement a tout autant de prix et tout autant de valeur que s'il avait gardé toutes ses facultés, toute son autonomie.
Alors, nous poursuivons dans l'idée du cycle liturgique, puisque nous arrivons à la Pentecôte. Et là, je ne souhaite pas déflorer intégralement ce que vous avez vécu, parce que j'aimerais beaucoup que nos auditeurs achètent ce livre pour le lire, parce que c'est bouleversant. C'est un livre qu'il faut offrir aussi, je pense, parce qu'il dit beaucoup de la force de votre foi, de la force de ce petit bout de bonhomme qui arrive à surmonter toutes ces épreuves. Mais quand même, votre livre a un titre quand même qui laisse penser qu'il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu Jésus.
Il a vu Jésus. Effectivement, il rentrait ce jour-là pour la journée. C'était d'ailleurs toujours à la fois une grande joie et un déchirement, parce que il arrivait vers 10h le matin et il repartait vers 5h le soir en ambulance. Nous, on l'accueillait à la maison transformée et aménagée avec le lit médicalisé, tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse être confortablement installé. Et ce jour-là, il nous dit avoir quelque chose à nous raconter. Et il faut savoir qu'à l'époque, il avait retrouvé la parole, mais de manière très modeste, c'est-à-dire qu'il répondait à des questions fermées par oui ou par non. Au mieux, il faisait une phrase sujet-verbe-complément. Et ce jour-là, qui était donc le jour de Pentecôte, il nous dit « Savez-vous ce qui s'est passé quand j'étais dans le coma ? J'ai vu Jésus. » Et il raconte pendant 40 minutes, d'une manière lente mais fluide, cette expérience d'une rencontre avec Jésus, ce qu'il a vu au ciel, ce qu'il a vu aussi de l'enfer, et ce qu'il en conclut, à savoir que sur Terre, le plus beau moment, c'est la messe. Voilà les grandes étapes de cette expérience.
Ouais, c'est magnifique. Donc finalement, cette expérience donne du sens à toute la souffrance, puisque maintenant, lui-même, par son message, évangélise. Sa souffrance ne fut pas vaine, la vôtre non plus. Quand je vois combien vous êtes invités, combien les gens semblent touchés, en fait, par ce témoignage, alors c'est très difficile à vivre, mais il y a une explication derrière.
Il y a une explication, et c'est là aussi que j'ai compris la deuxième partie de la phrase qui m'habitait dès le début, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Salut du monde, je trouvais ça quand même un peu prétentieux. Vous voyez, je me disais en quoi notre propre malheur va contribuer au salut du monde. Et en fait, ce que nous avons découvert, c'est les conversions qui ont suivi le rétablissement de Stanislas. Et c'est la raison pour laquelle ce livre est dédié à une jeune fille qui s'appelle Charlène, qui est devenue, à mon mari et moi, notre filleule, qui a été baptisée adolescente à Pâques. Voilà, puisque ses parents avaient dit, si Stanislas s'en sort, on aidera notre fille à demander le baptême. Et puis, il y a eu effectivement des demandes de baptême, de confirmation, des mariages religieux de personnes qui vivaient en couple sans être mariées. Il y a eu des petites conversions aussi, voilà, qui sont peut-être moins spectaculaires. Mais un jour, je me souviens où je disais à Stanislas quand même que telle sainte n'avait pas eu une grande intercession, ou en tout cas pas flagrante.
Oui.
Stanislas m'a répondu, mais il y a aussi des grâces qui ne se voient pas.
Ah oui.
Et par là même, il renvoyait à ce qu'il pouvait ressentir lui en termes d'apaisement aussi par rapport à sa propre histoire, par rapport au pardon à donner à celui qui a causé l'accident, par rapport à l'acceptation des limites du handicap. Et donc il y avait bien sûr les miracles comme dans les évangiles, vous savez, ces miracles de guérison physique, mais oui, qui en fait sont le signe des guérisons intérieures et des conversions.
Oui, mais écoutez, merci beaucoup Laurence pour ce magnifique témoignage. Je rappelle votre livre « Maman, j'ai vu Jésus », Laurence Trochu chez Via Romana. Je le montre.
Merci France.
Voilà, c'était une grande joie. Merci beaucoup. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je laisserai les auditeurs découvrir tout ça.
Merci de votre invitation.
À bientôt. Au revoir Laurence.
À bientôt.